Radio Tarot, une émission pour explorer les archétypes sans tomber dans les stéréotypes. Tous les premiers du mois, je, Alice, cartomancienne, partage mon analyse des cartes du tarot. Un regard queer et féministe sur le monde ésotérique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Tarot. Alors aujourd'hui, c'est Radio Tarot en duo. J'ai une invitée. Bonjour.
Bonjour.
Et je suis très contente d'avoir cette invitée parce que c'est une invitée que j'avais déjà interviewée pour sa création de jeu à un moment où je ne m'intéressais pas encore vraiment au jeu, c'est-à-dire il y a 10 ans. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter ?
Bonjour, je m'appelle Émilie et je pratique le massage à l'huile, le shiatsu, depuis peu, presque peu, un peu de temps quand même, et le tirage de cartes à partir de cartes que j'ai créées. Et ça marche aussi avec une pratique de bibliothécaire.
C'est-à-dire, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la bibliomancie, qui est le fait de se poser des questions et de regarder les réponses dans les livres. Mais toi, t'es venue avec un paquet de cartes.
C'est-à-dire que d'abord, j'ai une pratique de la bibliothèque une réflexion sur la bibliothèque, comment mettre en partage des livres en les désacralisant un peu. Il y a un truc assez vertical dans la bibliothèque et assez écrasant. Du coup, le jeu, c'était de mettre les livres au sol comme un paysage et on peut se promener dedans. Et déjà, juste le fait de se voir la couverture, c'est déjà quelque chose et on peut se raconter des histoires. Et du coup, de les mettre par terre, de les mettre au sol et de se créer des chemins dedans, de se décomplexer et de passer beaucoup de temps à lire et d'avoir envie de mettre ça en partage, donc à travers ces paysages de livres, à travers des conseils de livres. Et des conférences improvisées. Et petit à petit, de là, on arrive aux cartes et du coup, à un truc de tirage de cartes qui naît de la pratique de la lecture et de la pratique de partage de ce qu'on lit.
Okay.
D'envie de partager ce qu'on lit et de le rendre accessible.
Ok. Du coup, ça veut dire que tu as gardé le papier et le carton, mais c'est moins épais.
Ouais, c'est moins épais. C'est moins impressionnant, c'est plus saisissable dans la main et on peut jouer avec. Il y a l'idée de pouvoir jouer, de s'approprier et de... Ouais, je reviens à ce mot un peu de désacraliser.
Toi, ça faisait partie de tes intentions de jouer avec le livre et de permettre à plus de personnes d'oser se l'approprier ?
Oui, et de ramener à l'oral. En fait, il y a plein de personnes qui n'ont pas eu un accès à la lecture et qui sont bloquées par rapport à la lecture parce que tout a fermé pour eux l'accès à la lecture. Et de raconter les livres, ça permet de donner accès à des gens pour qui la lecture c'est coupé, alors que ce qu'il y a à l'intérieur, ils pourraient le comprendre. Et du coup, de le raconter, de revenir à l'oral, c'était ça aussi... Un des moteurs de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit à travers des conférences improvisées et petit à petit à travers les cartes. Les cartes aussi, c'est parce qu'à un moment, le premier jeu de cartes, il vient parce qu'à un moment, je suis invitée à faire une conférence à un endroit où j'ai un peu la trouille. Et que du coup, je trouve un biais en me disant, au lieu de faire une conférence devant plein de gens à la fois, c'était à Stéréofiche, un festival punk, dans un champ à Saint-Sébastien dans le Trièves. Au lieu de faire une conférence devant tout le monde à la fois, j'ai qu'à faire des micro-conférences pour une personne à la fois. Et, Bah, c'est un peu comme une blague, parce que je disais à une amie ça, bah, je pourrais faire des petites conférences pour une personne, il y aurait une table, il y aurait deux chaises, il y aurait toute ma bibliothèque. Je pourrais avoir comme un menu des conférences improvisées que j'ai déjà faites. Et si la personne, elle voit un peu c'est quoi mes problématiques, elle pourrait me poser une question et j'essaierai de lui trouver des bouts de réponse dans les livres que j'ai avec moi. Et c'est là que ma pote, en rigolant, m'a dit « Ah, mais ça fait trop cartomancienne, en fait, ça fait diseuse de bonne aventure et tout. » Et je me suis dit « Ah, mais trop bien, ouais, c'est vraiment une bonne idée, en fait, de passer par un jeu de cartes pour faire rentrer aussi du hasard et pour... Enfin, ça fait double enjeu, ça fait rendre accessible d'une manière un peu ludique le contenu de livre. Et aussi, pour moi, ça me met en jeu dans le sens où, au lieu de savoir où je vais et d'avoir construit vraiment de manière carrée un discours où je sais que je pars de A pour aller à B, et ben le hasard, ça me fait percuter, ça me fait divaguer, ça me fait un peu perdre le fil et une rationalité trop serrée, quoi.
Ok. Et toi, en termes d'ouvrage, tu dirais que ta bibliothèque, à partir de laquelle tu as créé le jeu, elle est composée de quoi ?
Elle est composée de d'un mélange. Enfin, au niveau de la forme, ça peut aussi bien passer par l'essai, la poésie, le roman. Bah, quand même beaucoup plus de trucs théoriques et beaucoup beaucoup de d'ouvrages féministes. Le livre qui m'est probablement le plus cher et qui ressort le plus, en tout cas dans le premier jeu de cartes, le livre qui ressort le plus souvent, c'est Sister Outsider de Audre Lorde. C'est une compagne et un compagnon de route depuis très 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 longtemps. Et après, ça varie, ça vient. Enfin, il y a de plus en plus de poésie, par exemple.
Ok.
Alors qu'avant, c'était très théorique. Maintenant, ça s'ouvre plus à la poésie.
Ok. Et avant de te proposer cette interview, je ne savais pas que tu avais créé un deuxième jeu. Et est-ce que c'est les mêmes intentions de rendre accessibles les mots, les textes dans ton deuxième jeu, ou il y a quelque chose qui s'est décalé et qui t'a donné envie d'en créer un deuxième?
Le deuxième jeu, déjà il y a presque 10 ans entre les deux jeux. Le premier jeu n'est pas pour autant obsolète. Je sais pas, il y a un truc qui fait qu'il m'est toujours cher et que je trouve qu'il fonctionne toujours, même si il y a des cartes que j'ai enlevées parce que la sensibilité elle évolue, on rencontre des nouvelles choses, on se dit ah ça c'était vraiment pas fin, je vais l'enlever et tout. Mais le deuxième jeu, c'est pas tout à fait... En fait, ça part à... Il y a d'abord une commande pour une revue qui s'appelle Quoique, d'un poème. Il y a des masses, des heures de recherche, de lecture, de prise de notes. C'est comme si à chaque fois que je lis, je recopie le livre en entier. Et de recopiage en recopiage, je resserre, puis je fais un espèce de montage. Et du coup, là, c'est comme un poème bibliographique. Donc, il faut imaginer quelque chose qui se déplie en plusieurs volets et qui fait une longue bande comme ça, en longueur. Et quand on regarde, ça fait comme 3 très longues colonnes. Sur la première colonne, il y a mon texte lui-même. Sur la deuxième colonne, il y a des citations qui viennent en rebond. Et sur la troisième colonne, il y a une bibliographie qui n'est pas par ordre alphabétique, mais qui vient répondre et rebondir sur les citations et mon texte. Donc on peut lire soit mon texte d'une traite, soit rebondir entre les colonnes et lire un peu en zigzag, poème bibliographique.
Et... Du coup, sur une dimension de dialogue à l'intérieur des textes.
Ouais.
Entre ce que toi, tu as écrit...
Les citations et la bibliographie.
Ok. Et...
Et du coup, c'est une énorme, énorme recherche et une masse de petits papiers, de cahiers, de trucs, de machins, d'images, de choses découpées. C'est une masse énorme, condensée, ramenée, réduite à un texte linéaire. Et il y a un truc intéressant, mais il y a une espèce de frustration d'avoir une telle masse qui partait dans tous les sens, qui est réduite à la ligne, même si c'est une ligne qui rebondit et qui zigzague. Et du coup, j'ai demandé à Gaëlle des Modernes, d'une librairie qui est à Grenoble, si je pouvais venir faire une résidence dans la librairie. Donc l'idée, c'était que je sois là pendant un mois, que je m'installe un bureau à l'étage où normalement il y a des expositions et que je ramène toute ma masse de matière et que je m'étale et que je travaille avec. Et que du coup, des gens passent, ça crée des discussions et qu'il y ait une espèce de restitution à la fin. Et c'était remettre en jeu la matière et je pensais m'étaler sur les murs et avancer sur le mur. Mais en fait, j'ai tourné en rond sur le mur. J'ai commencé à un endroit et puis je me suis rendu compte que je bouclais. Donc j'enlevais au fur et à mesure et je continuais ma boucle. J'enlevais, je continuais ma boucle. Bon, j'ai quand même gardé des traces sur comme des espèces de photographies, mais dessinées en schéma de ce que j'avais mis. Des mots que j'avais écrits à la craie sur le mur noir, des bouts de papier que j'avais collés. Donc voilà, j'ai bouclé comme ça. Et à la fin, je me suis dit, bon, et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je raconte? Alors j'ai commencé comme ça, puis j'ai mis ça, puis j'ai mis ça. Bon, on retombait sur ce truc un peu linéaire et plat. Et je me suis dit, bon, bah, un jeu de cartes, un nouveau jeu de cartes. Comme ça, je remets du rebond quoi, à un endroit et j'évite que ce soit un rendu un peu plat et qui rend pas tout à fait ce que c'est quand ça se met à pétiller et à résonner comme ça.
Ok. Du coup, un deuxième, il est, je dirais, il est plus orienté sur... si je résume, quoi. Le premier, il est sur l'accessibilité. Et le deuxième, il est plutôt sur avoir la bonne forme pour partager. Avoir une forme qui est plus adaptée au sentiment qu'essaie de penser.
Ouais, et à la fois, ça se rejoint parce que des fois, il y a des choses qui ne sont pas accessibles. Et souvent, les conférences, elles ne sont pas accessibles. Ce qui m'énerve d'ailleurs dans les conférences, c'est que la personne, elle ne donne que le résultat de la pensée. Elle ne donne pas son chemin. Tout d'un coup, tu as quelque chose qui est affirmé comme ça, de on ne sait pas d'où ça sort, on ne comprend pas. Et on n'a pas le chemin que la personne, elle a fait. Pourquoi elle s'est intéressée à ça? Pourquoi elle est allée chercher? Et comment elle arrive à ce résultat? Et ça, tout ça, c'est effacé. Et du coup, ça, c'est pas vivant, c'est pas relié, et finalement, c'est inaccessible. Et du coup, rendre accessible, c'est aussi remettre les chemins, et c'est remettre de soi un peu, de d'où on part, pourquoi on a fait ça, qu'est-ce qui nous porte dans ce qu'on est en train de faire, ou quel truc qu'on a vécu, nous a mis en mouvement, nous a dit « Ah, mais ça !» Et remettre un peu tout ça dans la pensée, que ce ne soit pas juste le résultat sec et distant comme ça, sorti de nulle part, où tous les petits traits ils ont été gommés. Donc oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, et à la fois ça se rejoint et c'est un peu pareil.
Oui, c'est une question qui est présente dans ton travail en fait. Tout à fait. Est-ce qu'on s'écouterait un premier morceau de musique?
Oui, alors j'ai amené des disques et des cassettes pour qu'on puisse écouter. Et on pourrait commencer par un morceau de Dox, qui est un duo de Toulouse. Okay. Je vais le mettre.
Super. Eh bien, moi, c'est la première fois que je passe des vinyles sur Radio Campus. Merci pour cette occasion. Sans toi, je ne l'aurais pas fait.
Thank you.
Vous êtes bien sur Radio Campus 90.8 dans Radio Tarot, une émission pour parler de jeux de cartes avec une invitée. Et on vient d'écouter Dox, Cardinal North, un duo instrumental toulousain. Alors c'est pas mal que tu aies choisi Cardinal North, je trouve ça un petit écho aussi hein, sur le point cardinal, comment est-ce qu'on s'oriente, etc. Et moi, ce que je trouve intéressant dans le fait de t'inviter, en plus de la démarche, de la volonté de partager les livres, qui est quelque chose que je partage aussi, et notamment les livres de théorie, et en particulier de théorie politique et féministe, c'est qu'en fait, elle est la première personne que j'accueille qui n'a pas d'enjeu d'édition. C'est-à-dire que ton jeu n'est pas reproduit. Pour qu'il existe, il faut que tu le sois avec. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait choisir ça ?
Déjà, c'est un jeu où le premier jeu, il n'y a pas d'image sur la face de la carte. Il y a un ou des mots dans l'espace de la carte, mais pas d'image. Et j'avais l'impression qu'il y avait besoin de l'activer. Enfin, que ce qui était intéressant, c'était l'activation. Enfin, ce qui m'intéressait, moi, c'était de rencontrer des gens à travers ce jeu de cartes. Mais que pour l'éditer, il aurait fallu refaire tout un travail de mise en livre et du coup, qu'on aurait rééloigné le jeu de son enjeu.
Qui était de sortir des livres.
Qui était de sortir des livres ou de moins de réamener vers l'oralité des livres et de rendre accessible un contenu théorique qui est parfois souvent difficile d'accès. Donc ça venait foutre en l'air un peu l'idée de base. Et donc j'ai décidé de... J'y ai pensé hein, quand même, je me suis posé la question, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Et ce qui fait que le jeu, il existe que dans des temps publics où je suis invitée pour faire du tirage de cartes ou pour des proches qui me demandent des tirages à des moments de leur vie où ils et elles ont besoin de se poser pour réfléchir avec un élément du hasard pour brasser un peu les choses différemment et voir ce qu'il en sort ou pas.
Et est-ce que ça veut dire que quand tu l'emmènes avec toi, tu emmènes aussi ta bibliothèque ? Est-ce que tu parlais de références, de venir extraire, peut-être lire
ouais.
des passages ?
Ouais, jusqu'à présent, je déplaçais le jeu de cartes avec une petite bibliothèque. C'était l'occasion aussi... souvent, je suis quand même intervenue, c'est plutôt dans des cadres de festivals de musique punk, DIY. Donc c'était aussi l'occasion de créer un espace... où on peut se poser avec des tapis, des coussins, où il y a un peu des livres qui sont là et qui créent un autre type d'espace que je trouvais intéressant et où je pouvais aussi tirer les cartes. Mais c'est aussi une zone où on peut se reposer et se mettre au calme. Ça crée une petite bulle, même si on entend encore la musique ou quoi, ça crée cet effet petite bulle que je trouve assez chouette et précieux. Pourquoi je disais ça ?
Est-ce que tu venais, est-ce que tu sors oui. toujours avec tes livres ?
Oui, donc jusqu'à présent, ouais, toujours avec un bon paquet de livres. Après, maintenant, là, je sais pas comment je ferais. Je pense que si, j'essaierai de me déplacer toujours avec les livres, mais c'est-à-dire que là, depuis un an, j'ai un peu mal au dos, donc peut-être c'est un peu plus compliqué de se déplacer avec plein de livres, mais... En fait, à force de faire le tirage, il y a aussi qu'il y a beaucoup de passages qui me sont importants que je peux citer un peu de mémoire comme ça, mais c'est pas pareil quand même avec les livres. Je vais trouver une chariote ou un truc pour déplacer les livres.
Sans te faire mal au dos.
Sans me faire mal au dos.
Parce que se masser soi-même, des fois, c'est complexe.
Ouais.
Ok. Bon, en tout cas, là, présentement, tu es venue avec tes cassettes et tes vinyles, mais pas tes livres.
Oui, voilà, j'ai pas pris les livres.
C'est bien, c'est bien. Et du coup, nous avons face à nous dans le studio les deux jeux. Et du coup, est-ce que ça te va si on les met en mouvement et en jeu, quoi ?
Du coup, le premier jeu de cartes, le premier que j'ai créé, c'est des cartes qui sont un peu plus grandes, un peu plus larges qu'un jeu de tarot classique, mais à peu près la même hauteur, je dirais, mais plus large. Elles sont rectangulaires et d'un côté, Elles sont sérigraphiées. En fait, c'est une grande planche qui a été sérigraphiée en bougeant. Donc, ça fait un espèce d'effet entre la peau de serpent, le grillage. C'est un peu... Et puis, il y a des moments où ça a quasiment pas imprimé parce que la feuille était très, très grande. Donc, avec le rack, c'était difficile d'appuyer partout pareil. Donc, il y a des moments où c'est pas trop imprimé, des moments où ça a bougé, ça a double imprimé. Et c'est plutôt dans des tons violets, bleu, rouge, ce qui donne du violet quoi, à un endroit. Donc, ça, c'est l'envers de la carte où elles sont toutes finalement pareilles et différentes à la fois. Et après, l'endroit, ce qu'on va appeler l'endroit de la carte, elles sont toutes, sauf une, cadrées de noir avec des mots écrits à l'intérieur pour toutes sauf une. Du coup, toutes sauf une, c'est-à-dire qu'il y en a une qui n'a ni mots ni cadre autour. Souvent, quand les personnes tirent cette carte, il y a beaucoup de personnes que ça fait un peu flipper, alors que pour moi, c'est un peu l'espace des possibles. Mmh. J'explique à chaque fois, c'est comme si les autres cartes, c'était les segments. Il y a un trait qui les coupe d'un côté et de l'autre, on ne peut pas aller plus loin. Alors que là, c'est comme une droite. C'est-à-dire il y a un morceau d'espace là qui est mis en valeur, mais ça se prolonge à l'infini de tous les côtés. On est dans un espace ouvert des possibles. Et c'est un peu... Ouais, du coup, c'est là qu'on voit que c'est un peu vertigineux en fait, pour plein de gens.
Oui. Parce que souvent, quand on a une question, on a envie d'avoir des pistes, ou au moins, enfin, des réponses, voire des pistes. Et si la réponse est tout est ouvert, bah, des fois, ça prend du temps d'accepter cette réponse.
Après, les cartes, elles peuvent pas. Enfin, une carte ne fonctionne pas seule. En fait, ce qui est intéressant dans les cartes, c'est comment elles entrent en résonance, en dialogue. Donc, il faut au moins deux cartes pour faire un tirage. Une carte, ça fait pas un tirage. Du coup, pour accentuer l'effet du hasard, le tirage il fonctionne avec un petit dé. Donc, dans ma pochette dans laquelle je range mes deux jeux de cartes, qui est une petite pochette très pratique, j'ai un mini dé. J'adore ce mini dé. Il est très petit.
Il est très petit. Il est plus petit qu'un ongle.
Ouais, voilà, il est très mignon. Et du coup, on lance ce dé.
Est-ce qu'on fait ça ?
Ouais, on peut faire ça.
Et c'est toi ou moi qui lance le dé ?
Tiens, balance le dé.
Allez, je lance le dé. 2.
T'es tombé sur 2. Donc ça, c'est le minimum de cartes sur lesquelles tu peux tomber. Parce que si tu tombes sur 1, il faut retirer le dé pour connaître la suite de l'histoire. Un tirage, c'est une histoire qu'on va élaborer ensemble.
Ouais.
Et du coup, on aura forcément... au moins 2 cartes, et donc jusqu'à 7 cartes.
Ok. Je prends 2 cartes ? Tu prends 2 cartes ? Comment ça se passe ? C'est quoi ton protocole ?
Eh bien, tu peux prendre les cartes, les mélanger.
C'est étonnant pour moi de toucher un jeu unique.
Et quand tu auras estimé que tu l'as assez mélangé, tu pourras en choisir 2.
Est-ce que je peux te poser une question avant ?
Ouais.
Est-ce que tu te... C'est une question sur ton processus. Hein. Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que ça t'a fait le moment où tu as édité le jeu ? Enfin, genre où tu as fini la sérigraphie, où tu l'as fait ? Ce qui s'est passé pour toi ?
Bah, c'était un peu fou parce que ça a été hyper rapide finalement. Enfin, c'était moins d'un mois entre l'idée de faire un jeu. En fait, il y avait ce truc assez urgent qu'il y a eu l'idée et le festival, il allait être là, quoi. Fallait y aller. Et du coup, ça a été assez vite. Ouais, je sais pas, c'était assez excitant et effrayant à la fois de bon, ben. Qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que, enfin, pour moi, c'était vraiment au départ totalement un outil de conférence aléatoire. Mais à l'usage, et c'est à l'usage pendant ce festival que je me suis rendu compte que bah oui, ça marchait comme un tarot, non divinatoire, mais comme un tarot, quoi. C'est-à-dire, on vient avec une problématique actuelle où on n'arrive pas très bien à démêler les fils, on est un peu noué autour de quelque chose. Et les cartes, elles permettent de d'essayer de tirer un peu les fils comme ça pour essayer de dénouer le truc, mais ça apporte pas...
C'est pas prédictif.
C'est pas une prédiction. Mmh. C'est juste de... remettre en jeu un peu différemment les éléments du problème pour voir ce que ça fait et si ça peut nous décaler un peu de nos grosses ornières de pensée dans lesquelles on est un peu des fois embourbé. C'est l'avantage du hasard, quoi.
Ouais, du jeu. Ok, du coup, moi, je crois que j'ai une question.
Ouais.
Je me pose des questions sur la suite de Radio Tarot.
Ouais.
J'ai envie de continuer, mais je ne sais pas très bien quelle direction prendre. Est-ce qu'on peut faire un tirage là-dessus ?
Vas-y.
Du coup, je prends deux cartes. Ouais. C'est un peu méta, quoi. Du coup.
Alors, tu as choisi une première carte et une deuxième. Ok, on ne va pas toutes les retourner d'un coup. Là, il n'y en a que deux, mais on aurait pu en avoir sept.
Ouais.
Et retourner d'un coup toutes les cartes, sachant que de l'autre côté, il n'y a pas d'image, il n'y a que des mots, ça peut être assez paralysant.
Ok.
Et ce n'est pas l'intérêt, en fait. Donc, on y va petit à petit, tranquillement. Mm-hmm. Et donc, tu peux retourner une première carte.
Il y a marqué puissance, plus loin et, un peu comme centré, et après vulnérabilité, un peu décalé. C'est pas complètement centré au niveau de la carte, c'est un peu plus en haut. Il y a le cadre noir dont tu parlais, donc c'est borné, quoi. Et ça me parle sur Radio Tao.
Ça te parle ? Est-ce que tu veux nous dire à quel endroit ça te parle ?
Eh bien, je pense que dans ce que je partage en Radio Tarot, il y a beaucoup de vulnérabilité, c'est-à-dire que quand je suis toute seule, je parle de qu'est-ce que je connais des cartes et comment ça résonne avec ma vie. Et je sais qu'à des moments, il y a des épisodes que j'ai vraiment hésité à publier, notamment ceux qui parlaient de choses un peu complexes ou qui parlaient du rapport à la nostalgie. Et à la fois, je sais qu'il y a une puissance là-dedans, dans le fait de pouvoir aussi partager des choses qui sont en cours de réflexion, qui ne sont pas que joyeuses. Et du coup, mais là, en fait, j'ai plutôt répondu sur la puissance de la vulnérabilité. Comment ça crée la puissance ? Et là, c'est la proposition de faire les deux en même temps. Donc voilà, ça m'évoque ça, ouais.
Ouais, c'est vrai, c'est que ce qui est important dans cette carte, finalement, c'est pas un des deux mots où c'est vraiment le « et » entre, de tenir ensemble ce truc de puissance et de vulnérabilité, et de dans tous les sens, quoi, de comment... par exemple, typiquement, là, c'est totalement une carte où on pourrait aller chercher... Audre Lorde et comment elle dit que elle c'est une guerrière poète qui à un moment face à l'éventualité de la mort s'est posé la question de qu'est-ce qu'elle allait le plus regretter et que c'était ses silences, mais que ses silences l'avaient pas protégée, elle était quand même là malade à devoir affronter la mort. Et qu'une fois qu'elle s'est dit non, mais je vais arrêter de me taire et attendre que d'autres prennent la parole à ma place, une fois qu'elle s'est mise à parler, elle s'est mise en vulnérabilité parce qu'elle s'est rendue visible. Et en tant que lesbienne noire aux États-Unis à l'époque, et encore aujourd'hui, de toute façon, je ne sais même pas pourquoi je dis à l'époque. Quoi.
Pour dire qu'elle a écrit dans les années 80.
Oui, voilà, par exemple. Se rendre visible, c'est aussi quelque part se rendre vulnérable, mais c'est aussi pouvoir rencontrer d'autres personnes chez qui ce que tu dis, ça résonne, et du coup, ensemble, collectivement, monter en puissance. Et que finalement, les vulnérabilités de chacune, chacun, elles viennent se rencontrer. Et c'est ensemble qu'on va créer de la puissance. Et que c'est peut-être là que la radio, c'est à la fois, on se rend vulnérable en parlant à la radio, mais en même temps, on va résonner chez d'autres personnes qui vont se dire « Ah oui, je suis pas seule à vivre telle ou telle chose. » Et ok, peut-être on peut se rencontrer, faire des trucs, avancer. Ça crée du collectif et ça crée de la puissance d'agir. Du coup, ouais.
Ouais, bah, oui, ça me parle parce qu'en fait, Radio Tarot, c'est mon premier projet radio toute seule. Donc je me suis demandé quelle était la place du collectif vu que je produisais toute seule. Et je remarque bien que c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir des invités et d'avoir ce dialogue, justement. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'avais envie de t'inviter, parce que pour moi, il y a une dimension de dialogue entre les corps, les textes, les personnes, les cartes. Et c'est pour ça que j'aime avoir des invités, parce que c'est, pour moi, la pensée, elle se crée dans le dialogue.
Ouais, dans la parole et dans le... Enfin... Ouais, que de toute façon, le truc de penser tout seul derrière sa table, c'est très mort comme pensée. Et c'est en discutant avec d'autres qu'on se met un peu en danger, en fait, et qu'on arrive à quelque chose. Enfin, j'ai l'impression que de toute façon, dans mes cartes, il y a toujours ça qui va ressortir et qui va arriver à un moment. C'est le collectif, l'ensemble, l'échange, avec des singularités, bien sûr, mais... Ceci dit, revenons à ce tirage qu'on est en train de faire d'improviser en direct. Ouais. Et, est-ce que tu veux retourner la deuxième carte ?
Allez, je fais ça. Guerrière.
Et voilà, bah, guerrière, écrit comme l'écrit Monique Wittig dans son livre « Les guerrières ». Bon bah voilà, on sort ma deuxième autrice fétiche.
Moi de même.
De la vie. J'en profite d'ailleurs pour saluer mes camarades des Pages Manquantes, parce que vraiment Les Guerrières, c'est notre livre fétiche. Et à chaque fois qu'on fait des lectures croisées, il y a toujours Les Guerrières de Monique Wittig qui sortent. Donc voilà, une petite pensée à vous, Émilie et Siméon. Du coup, oui, les guerrières, bah c'est.
Ouais. Ok. Eh ben, oui. Ça répond à des choses et pour prendre le temps d'y réfléchir, peut-être on peut mettre un petit morceau de musique.
Ok. Peut-être on peut passer à la cassette qu'on a préparée là, qui est.
Allez.
Qui est un morceau de Tête Bêche sur une cassette qui s'appelle Funky Far.
Et qui a des paillettes.
Ouais, qui a une très belle cassette à paillettes.
Thank you.
toujours à l'écoute de Radio Tarot sur Radio Campus. On vient d'écouter un second morceau dans cette émission en duo avec Émilie qui vient parler des jeux de sa création. Et donc pendant ce morceau, j'ai eu le temps de réfléchir sur bien ces deux cartes, guerrière et puissance et vulnérabilité. Et je pense que ça augure de beaux projets pour Radio Tarot. Voilà, nous n'annonçons pas la fin du programme en live, tant mieux, parce que j'ai pas du tout envie, et vous non plus. Et on n'a pas trop parlé de ton second jeu.
Le second jeu, il est... je vais faire comme pour le premier, je vais le décrire.
Vas-y.
Il y a beaucoup plus de cartes. Dans le premier jeu, à un moment, il y avait, par hasard, le même nombre de cartes que les majeurs du tarot.
22.
Ouais. Et au fur et à mesure, j'en ai enlevé quelques-unes, donc il y en a moins maintenant.
T'en as pas rajouté, t'en as enlevé.
Non, j'en ai enlevé, mais j'en ai pas rajouté. Donc le deuxième jeu, sur le dos des cartes, c'est des chutes de sérigraphie que je garde depuis hyper longtemps. J'adore les chutes des ateliers de sérigraphie. Donc ça, je pense que ça date de l'atelier de sérigraphie qui était avant au 102, le 103 à vrai dire. Dès que je passe par un atelier de sérigraphie, je regarde dans les poubelles et je récupère les chutes. Et là, c'est des chutes de formes qui montrent pas des choses, pas figuratives, quoi. Mmh. Et dans des tons noirs paillettes, vert profond, vert feuille, orange automne, bleu canard, légèrement doré, du rouge un peu plus éclatant. Les cartes en elles-mêmes, c'est du papier un peu cartonné épais. Donc d'un côté, j'ai collé ces chutes et de l'autre côté, j'ai écrit à la main.
Alors attends, ça veut dire que chaque carte a une couleur différente parce que souvent dans les jeux de cartes, on a des dos justement...
Uniformes. Ouais, là, toutes les cartes sont différentes. Le dos, toutes les cartes sont différentes.
Ok.
Que ce soit de dos... Ou de face. Après, ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième jeu de cartes, c'est que, entre-temps, je suis passée par une école des plantes. Je me suis formée au contact de potes, mais aussi par cette école aux plantes médicinales. J'ai commencé le massage et le shiatsu. Du coup, il y a des plantes à des moments dedans.
Des noms de plantes ou des dessins de plantes ?
Des noms de plantes. Okay. Est-ce que tu veux piocher une carte dans le jeu ?
Ouais, d'accord.
Enfin, on peut se dire comme tout à l'heure qu'une carte, c'est rien. Enfin, ça dit rien, c'est un peu inerte. Tiens.
Et du coup, tu réenclenches le dé quand tu joues avec ce jeu-là ou pas?
Ah oui, alors en fait, ce jeu-là, quand je fais des tirages de cartes à une personne qui vient vraiment avec l'envie de parler d'une situation présente qui la concerne, on fait le tirage avec l'autre jeu que je... Bon, là, on a fait un tirage assez rapide et bref, si on avait été que toutes les deux hors antenne et qu'on n'avait pas un temps très cadré, sûrement que ce serait...
Oui,
et d'aller un peu autrement, quoi. Mais donc je commence avec ce jeu de cartes qui est plus habité, qui a plus de vie pour moi. Et après, je propose en plus de prendre une carte dans ce jeu. Et ce jeu, pour l'instant, je l'ai surtout fait des tirages publics où j'étale sur une table toutes les cartes. Mmh. Et c'est pas des tirages individuels, c'est-à-dire qu'une première personne vient retourner une carte, je commence à parler, à un moment une autre personne vient tirer une carte, je me saisis du nouveau mot pour continuer à dérouler la parole, et ainsi de suite, jusqu'à ce que on a l'impression collectivement qu'on est arrivé au bout de quelque chose. Du coup, ça s'est aussi un peu inversé, parce que le premier jeu, c'était pour ne pas se confronter à plein de gens à la fois et être seul à seul avec une personne, alors que l'autre jeu, il est directement fait pour jouer à plusieurs, pour se raconter une histoire à plusieurs. Enfin, pour que je raconte une histoire à plusieurs personnes. Bien qu'on peut toujours me couper la parole. pour dire quelque chose. T'allais dire, d'ailleurs.
Ben, d'un coup, l'image qui m'est venue, c'est le memory.
Ah ouais.
Tu vois ?
Ouais.
Sur le côté, on retourne une carte et tout. Mais du coup, ça fait qu'en retournant une carte, on te donne une consigne.
Mmh.
Ok. Bon, ben...
Tu veux... T'as une carte ?
Ouais. Tenir ensemble.
Eh ben, dis donc, ça vient sacrément aussi résonner avec ta première carte, puissance et vulnérabilité,
ouais.
Où ce qui était important, c'était le « et ». Et c'était justement comment on tient ensemble à la fois. Et tenir ensemble, c'est, bah oui, bah, c'est un peu une continuité de ça. C'est comment on tient ensemble nos propres contradictions et comment on tient ensemble aussi... avec nos différences et aussi dans des trucs générationnels. Enfin, peut-être c'est pas rien que ce jeu. Oui, je le fais 10 ans plus tard.
Oui.
J'ai la quarantaine et je vois différemment les effets de génération. Et oui, c'est ça. C'est comment tenir ensemble avec ce qu'on apprend de des personnes qui arrivent, qui n'ont pas grandi dans le même contexte. Comment tout le monde a quelque chose à apporter et on se tient ensemble. Et à un moment, pour moi, tenir ensemble, c'était aussi la question de comment on tient ensemble queer et matérialisme.
Oui.
Voilà, ça peut partir dans tous les sens, tenir ensemble, mais c'est... Et comment on tient ensemble, c'est comment on ne s'effondre pas et qu'on se donne de la force et qu'on continue d'avancer et on se nourrit les uns les unes les autres de nos expériences respectives, de nos blessures, de nos failles et de nos contradictions, avec un peu de tendresse.
Ok. Il y a un très bel écho. Et c'est marrant, si je peux décrire, en fait, le carton, il est beaucoup plus visible dans sa marronitude.
Ouais.
et c'est pas souvent quelque chose qu'on voit sur les jeux, en fait, ce côté matière, quoi. Et ton écriture, elle est liée, alors que les autres étaient plutôt déliées.
Ouais.
Et du coup, ça a un côté très amateur, que je trouve intéressant.
Et le premier jeu, j'ai demandé à une camarade, à ce moment-là, j'avais un atelier à Utopia. En fait, moi, j'étais pas très contente de mon écriture. Je lui ai demandé d'écrire elle, et du coup elle a écrit en délié comme ça, et c'est d'elle que vient le cadre de sérigraphie.
Du coup, t'as demandé à une personne de faire ton lettrage.
Ouais.
C'est chouette.
Et dans le deuxième jeu, bah, je l'ai fait moi-même finalement, et ça va, c'est lisible quand même. Mais j'avais un truc un peu plus ponte dans le deuxième, ouais. Quoi.
Ok. Eh ben, c'est assez étonnant, mais en fait, cette émission approche de la fin. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas vu le temps passer. Et du coup, peut-être, dans les dernières questions que j'avais envie de te poser, c'est... en fait, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un ou quelqu'une qui hésiterait à créer un jeu ?
D'y aller, de se lancer, de toute façon, à quoi ça engage de créer un jeu enfin... Et je trouve que c'est des moyens hyper intéressants, touchants, bouleversants, explosants de manipuler un peu sa pensée, les choses, les trucs qu'on rencontre, les problèmes, de les mettre sous forme de jeu et de s'amuser avec ou de... j'ai pas l'impression qu'on risque grand-chose et qu'on peut se planter à créer un jeu et puis... de pas y mettre trop de pression directe. Puis je pense qu'il y aura jamais trop de jeux finalement. Enfin, il n'y a pas de concurrence entre les jeux. Ça apporte, ça vient faire scintiller de plein de manières différentes les choses. Et du coup, ça nous enrichit tous et toutes les personnes qui créent des jeux, qui aient des nouveaux jeux. Ouais, voilà, des fois, les choses, elles commencent un peu comme des blagues. Et finalement, on est surpris soi-même de comment ça donne quelque chose.
Oui.
Du coup, je dirais, allez-y, faites des jeux.
Ok. Et alors, bah, moi, j'aurais une ou deux dernières questions. Je pense que la première, c'est... C'est quoi le rapport que tu vois, toi, entre les cartes et le soin ?
Y a un rapport de... c'est l'écoute. C'est dans le soin... Enfin, j'ai l'impression que pour moi, le cœur du soin, c'est un truc de se mettre à l'écoute et à l'écoute de la situation de quelqu'un pour l'accompagner, c'est-à-dire se mettre un peu derrière et l'aider à aller dans la direction qui lui convient sans... Et souvent, c'est ce qui manque aussi dans les pratiques de soins plus classiques, médicinales, pures et dures. C'est ce truc d'écoute et qu'en fait, à travers le jeu de cartes, on va, c'est sûr, soi-même beaucoup parler dans le tirage, mais le faire à l'écoute de là où la personne, elle en est, en appui, de que elle puisse aussi saisir de la situation. Et un truc d'écoute. Même dans la pratique du toucher, c'est un truc d'écoute.
Ok. Et peut-être, avant de s'écouter un dernier morceau et de conclure, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi et ton jeu ?
Alors, pour l'instant, je n'ai pas de date publique prévue avec les cartes. Du coup, je peux donner les lieux publics où on peut me croiser, où je suis disponible pour la rencontre et parler des cartes. Il y a les permanences de la bibliothèque Les Pages Manquantes, au 102, qui est au 102 rue d'Alembert à Grenoble. C'est un dimanche par mois, sauf en janvier. N'hésitez pas à regarder sur le site du 102, il y a nos horaires.
Donc tout ça à Grenoble.
Tout ça à Grenoble.
Et vous trouverez les infos sur Internet. Tu nous présentes le dernier morceau ?
Le dernier morceau, je proposais d'écouter quelque chose du groupe Racta, qui est un groupe brésilien.
Ok. Eh bien, c'était un très grand plaisir de t'avoir ici.
Merci pour moi aussi.
Et puis de faire un tirage en live. À bientôt. Vous venez d'écouter Radio Tarot. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un d'autre à qui il pourrait plaire. Et si vous voulez connaître les prochaines dates de sortie, rejoignez-moi sur Instagram @atropia. Merci pour votre écoute.